Bonjour à toutes et à tous, c'est les chroniques financières sur CFM Rhodes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Tout va bien?
Oui, 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 et toi?
Très bien, très gentiment, on attend le printemps.
Oui, exactement.
Bon, Steve, on le rappelle, conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes. Et au menu cette semaine, Steve, tu as eu envie de nous parler d'inflation, mais alors j'ai envie de te dire, côté actualité, t'es un peu en retard, parce que l'inflation, moi, ça doit faire 3 ans qu'on s'en plaint.
On s'en plaint, c'est vrai, mais comment on fait? Comment on gère?
Ah, tu comment veux. On gère
Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une vraie problématique déjà pour les investissements, parce que ça sert à ça, quelque part, tu vois, aussi. Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps en travaillant sur des portefeuilles, et je me disais, mais ok, tout le monde nous dit, on a souvent entendu dire que en période d'inflation, c'était intéressant d'emprunter, etc., etc., parce que tes revenus, ou les mensualités que tu payais sur tes emprunts,
moins lourd.
Exactement, exactement. Et puis tu te dis, oui, mais attends.
C'était la grande chance de nos parents quand ils ont acheté des maisons dans les années 70, 80, et puis qu'ils se retrouvaient avec des mensualités ridicules au bout de 10 ans. Enfin, ridicule, il fallait quand même les payer.
Ouais.
Mais ça pesait plus très lourd parce qu'on se tapait du 10% d'inflation par an.
On se tapait beaucoup d'inflation. Alors oui, mais justement, tu vois, ça, c'est vraiment intéressant parce que tu te dis, ok, très bien, je comprends la logique, etc. Mais moi, je suis salarié, par exemple.
Ouais, bah, moi aussi.
Donc, on n'a pas de clause d'indexation sur nos salaires.
Bah non, pas comme les Belges.
Alors je connais pas le.
En Belgique, c'est indexé.
Oui, d'accord, bon. Ben alors justement.
Nous, ça a été indexé d'ailleurs en France.
Ça a été indexé, ça a été arrêté parce que ça crée de l'inflation. Ça faisait une boucle inflationniste en te disant, ben voilà, dans la manière de calculer l'indice des prix, la composante salaire était importante. Et en fait, si tu veux, c'était un peu le chien qui se mord la queue.
Ah ouais, en Belgique, ils n'ont pas la même analyse apparemment.
Non.
Parce qu'ils n'ont pas plus d'inflation que nous, au final. Mais bon.
Enfin, oui.
C'est une autre question.
C'est une autre question. Mais du coup, tu te dis, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent donc, dire cette chose, mais. Et je me suis fait la remarque, je dis, oui, mais attends, moi, je suis salarié, mon salaire, il est fixe.
Ouais.
J'ai beau emprunter à taux fixe, ça ne va rien changer, qu'il y ait de l'inflation ou non.
Ouais, il y a quand même. Alors, toi, je ne sais pas dans ton cas particulier, mais quand on est salarié, il y a toujours. Alors, même si ça ne suit pas, moi, je suis bien d'accord. Là, l'inflation des dernières années, je ne l'ai pas récupérée sur mon salaire. Mais il y a quand même des petites augmentations d'indices, soit de conventions collectives, soit de ceci, de cela, soit toi-même qui va bien expliquer à ton patron que tu les vaux, qui font que ça ne reste pas.
Oui, mais je pense que ça reste quand même, ça a un effet marginal, c'est peut-être pas le mot, mais limité.
Je suis bien d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Pour le vivre au quotidien, oui, c'est limité.
Si t'es l'État, par exemple, ça c'est intéressant parce que tu te dis, ok, donc l'État, moi j'emprunte à taux fixe, par exemple, sur 5, 10, 15, voire plus longtemps, mais mes revenus, par nature, ils sont indexés sur l'inflation. Je prends la TVA, par exemple.
Ouais.
Ok, donc l'indice des prix augmente, effectivement, 20% sur une masse. Et donc là, naturellement, effectivement, ça prend tout son sens. En période d'inflation, tu as intérêt à emprunter à long terme, à taux fixe, parce que tu sais que de l'autre côté, tes revenus, ils vont gonfler, ne serait-ce que mécaniquement, par l'effet de la hausse des prix.
À taux fixe, c'est toujours une question de timing aussi, à un moment donné. Parce que les taux, ils sont censés, ils collent plus ou moins à l'inflation.
Alors, c'est les taux longs qui sont censés coller plus ou moins à l'inflation, mais c'est pas non plus une science exacte. Et quand bien même, si tu veux, il y a toujours une inflation anticipée, une inflation réalisée. Et là, c'est quand même intéressant. Mais la mécanique est intéressante parce que de ce point de vue-là, tu as une partie de l'équation qui va être, si tu veux, portée par l'inflation. Et je me dis, mais attends, pour l'État, je peux comprendre. Mais pour moi. Il y a aucune, j'ai pas de bouée de sauvetage.
Ah non, toi tu vas vraiment
rembourser. L'inflation, au contraire, dans les deux cas, si tu veux, ça m'intéresse pas,
D'accord.
Et ça marche au contraire à mon détriment. Et c'est là où tu te dis, ok, mais comment est-ce que tu peux faire en fait pour, en tant que conseiller ou avec les produits, convaincre les clients qu'ils ont intérêt à aller sur des marchés financiers? Pourquoi? Tu prends par exemple, ne serait-ce que, beaucoup de clients font de l'immobilier en direct, très bien, parce que là, dans l'immobilier, tu as des clauses d'indexation dans tes baux. Donc là, du coup, tu es baqué, et là, ça fait sens. Mais tu pourrais très bien envisager aussi de la SCPI, qui est de l'immobilier papier.
Ouais. Des parts.
Voilà, donc là, c'est quand même appréciable parce que, et là, il y a une petite astuce aussi, hein, je ne sais pas si on en avait parlé déjà la dernière fois, mais par exemple, tu prends des SCPI qui investissent en Europe.
Oui.
Ok, bon, mais très bien. Sauf que les flux qu'elles vont récupérer donc, des autres pays européens,
oui.
Ok, ils vont supporter l'impôt, mais ils ne vont pas supporter les prélèvements sociaux.
Ah,
et là, d'accord. Tu gagnes quand même 17,2%. Oui. Je dis ça, je dis rien. Si jamais il y a des gens, des impôts qui nous écoutent,
mais sûrement.
C'est une réalité.
D'accord.
C'est une réalité. Et là, ça fait réfléchir quand même. Parce que tu te dis, tu sais, quand tu veux construire une performance, il faut vraiment actionner tous les leviers que tu contrôles.
Mm-hmm.
La partie fiscale, sociale, s'en est un. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser.
À jouer avec.
Mais oui, bien sûr. Surtout que voilà, là, on est dans une démarche d'optimisation aussi des revenus. Mmh. Et donc, encore une fois, il faut prendre tout ce qu'on peut.
Mmh. Ah oui, bien sûr.
Donc là, par exemple, c'est une solution aussi. Regarder à se constituer un portefeuille en fait, de SCPI.
Ouais.
Parce que tu te crées en fait, une poche de revenus qui naturellement est indexée sur l'inflation.
D'accord. Et même là, si le contexte de l'immobilier, paraît-il, est très, très mauvais.
Justement, c'est quand les choses sont très mauvaises.
Ah, t'as raison.
Il faut peut-être commencer à réfléchir.
Au son du canon et je sais pas quoi.
Exactement. Et vendre au son du violon, je crois.
Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, oui, pour toi, ça serait du potentiel et ça serait.
Ouais, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand j'étais à Monaco, au Moyen-Orient, on n'en faisait pas beaucoup, du moins pas sous la forme des SCPI. Hein.
Mm-hmm.
Mais quand on y réfléchit, c'est vraiment un produit qui est intéressant, surtout si on va chercher des SCPI plus récentes qui n'ont pas de portefeuille.
Qui traînent pas un portefeuille
qu'elles ont acheté à des prix très chers.
Ouais.
Alors que là, justement, parce que le marché a bien baissé, c'est intéressant d'avoir des portefeuilles un peu plus récents. Tu vois. Donc les SCPI, c'est vraiment un instrument à considérer. D'autant plus que si tu n'as pas besoin de revenus de suite, tu peux les acheter de manière, comment on appelle ça? En fait, tu peux acheter en séparant, tu sais, l'usufruit de la nue propriété.
Hein, d'accord, oui.
Donc démembré.
Ouais.
Voilà. Et quand tu achètes de la SCPI en démembré, hein, donc tu vas accumuler du capital tax-free, parce qu'il n'y a pas de flux dessus.
D'accord.
Tu vois, et quand ton usufruit arrive à maturité, là tu vas.
C'est là que tu payes quand même.
Ben non, là tu vas reconstituer la pleine propriété, hein, et dès que tu vas toucher des flux, là tu seras soumis à la fiscalité.
Ouais, d'accord.
Tu vas payer si tu revends et que tu fais une plus-value.
D'accord. Pas sur le, tu ne payes pas sur le capital et la valeur que ça peut prendre ou pas.
Si tu vends, en fait, avant, il y a un terme, en réalité, parce que c'est de l'immobilier. Ouais, donc, si tu gardes les titres, je crois que c'est 20 ans et quelques.
20 ans?
Ah oui, il faut les garder.
Quand même.
Oui, mais regarde, quelqu'un qui veut préparer sa retraite.
Ah bah là, il la prépare bien.
Ben oui.
20 ans, oui, 20 ans, c'est bien.
Parce que tu touches pas de flux tant que tu es en salaire, tu es salarié.
Ouais.
Tu capitalises tax-free. Ouais. Quand tu arrives à la retraite, la nue propriété se reconstitue. Et là, tu vas récupérer des flux. Tu vois, alors effectivement, tu vas avoir une fiscalité sur les flux,
okay,
mais ça, la fiscalité, t'en as tout le temps. Mais en attendant, en fait, tu as acheté tes parts de SCPI avec une décote qui peut être relativement importante quand tu vas attendre 15-20 ans. Et tranquillement, en fait, ça va s'accumuler au fur et à mesure que l'usufruit décroît, si tu veux. Et bien là, tu vas faire un gain en capital automatique. Et tu vas récupérer tes flux à la fin.
Mais alors du coup, si je comprends bien, à moins que tu nous fasses une révélation, là en ce moment, c'est la ruée sur les SCPI de moins de 5 ans.
Alors la ruée...
Parce que sinon, ce que tu me racontes, je me dis tout de suite, tout le monde, faut y aller. Tout
oui,
monde y
mais
va.
Le problème, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des SCPI il y a une dizaine d'années, qui se retrouvent collés, entre guillemets, avec leur position, parce que ces SCPI-là, donc quand systématiquement tu dois revaloriser ton portefeuille, y a des décotes. Donc si tu vends maintenant, tu vas cristalliser une perte.
Tu vois.
Donc les gens se disent, c'est de l'immobilier, on tient, on garde.
Ouais, on garde, on attend, et puis voilà. Ça bouge pas. Ouais.
Mais moi, par exemple, pour les nouveaux clients, pour les clients qui restent intéressés, qui ont de l'épargne disponible, je les oriente vers des SCPI plus récentes.
D'accord.
Tu vois, ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et surtout, des SCPI qui investissent en Europe. Okay. Voilà.
Et SCPI, donc c'est de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier locatif pour du particulier ou ça peut être de l'immobilier de bureau, de
ça peut être de
zone commercial, tout.
Exactement.
Tout peut rentrer dans
c'est ça qui est bien aussi parce que tu peux diversifier sur tes différents types d'immobilier.
Ok.
Tu vois.
Donc, premier bon plan, éventuellement, première possibilité pour surfer.
Ouais,
sur
c'est ça, exactement.
Voilà. Les SCPI européennes.
Voilà, des SCPI qui investissent en Europe investissent en priorité. En Europe.
D'accord. Voilà. Donc, ça, ça serait le moment.
Donc, ça, c'est bien.
Ok, autre chose.
Et puis, les actions.
Ah, bah.
Les actions, ouais. N'ayons pas peur du risque.
Oui, t'as raison. Mais
n'ayons
en même temps, tu
pas
nous rappelles
peur
quand même
du
souvent
risque.
Qu'il ne faut pas trop en prendre, qu'on n'est pas là pour ça.
Ah, il faut le gérer.
Voilà, il faut le gérer, oui, c'est ça.
Il faut le gérer, c'est
oui.
Pas tout à fait pareil.
Oui, t'as raison, oui, c'est vrai.
Mais le risque, si tu veux, encore une fois, quand il est bien géré et bien diversifié, il y a peu de chances, en réalité, que tu te retrouves à acheter ou à détenir une seule action qui fait faillite, une seule compagnie qui fait faillite.
Ah, ça, c'est pas de bol.
Ça arrive.
Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive, ça arrive.
Voilà. Quand tu as un portefeuille un petit peu diversifié, puis surtout d'entreprises un peu importantes, ben là, tu es quand même relativement bien protégé de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, un petit peu comme pour le gouvernement, si elle a un peu de ce qu'on appelle pricing power, elle peut tout simplement exactement, répercuter une partie de la hausse de ses coûts sur le client.
Qu'est-ce qui le fait là ? T'as des exemples de voilà dans d'entreprises voilà qui peuvent se permettre de répercuter l'inflation sur leurs clients et qui donc ont des super comptes tout va bien.
Typiquement toutes les grosses entreprises du luxe.
Mais
oui parce que là tu t'adresses à des clients pour qui c'est voilà
déjà pour qui 5000 euros pour un sac à main c'est rien alors t'en rajoutes 500.
Tu rajoutes voilà c'est peu importe tu vois. Mais c'est une réalité mais après t'as pas que ce genre d'entreprise mais t'as la plupart des entreprises sont capables en fait d'augmenter les prix. Tu vois, et après, quand c'est des biens en fait, dont tu as structurellement besoin, j'ai envie de dire, bah, tu payes parce que tu n'as pas le choix. Tu vois. Mais toi, en tant qu'investisseur, ce n'est pas inintéressant aussi de te dire, bon, bah, ok, moi, je vais maîtriser mon risque en diversifiant mon portefeuille. Je sais que ça va bouger. En revanche, je me constitue aussi une source de revenus qui est naturellement indexée sur l'inflation.
Ouais.
Et quand j'en aurai besoin dans 5, 10, 15, 20 ans, je serais très content, tu vois.
Mais même là, parce qu'on est quand même sur des plus hauts, sur les marchés, là, il y a quelques semaines, on était sur les plus hauts. Là, depuis, je ne sais plus, 3 semaines, 1 mois, c'est un peu plus incertain. Mais toi, tu es acheteur.
Ça dépend de quoi. Tu prends par exemple les banques. C'est intéressant, les banques.
Ouais.
Ce n'est pas des actions que tu vas payer très, très cher. C'est
pas les banques françaises. Elles ne veulent pas cher.
Oui, des banques françaises.
Dans les autres aussi, ouais.
Mais si tu veux, ce n'est pas quelque chose où tu vas... c'est pas une source d'innovation comme pourrait l'être un Tesla. En ce moment, il y a quand même en fait un gros buzz, si tu veux, sur tout ce qui est intelligence artificielle. On en a parlé plein de fois. Et donc, ça se retrouve un peu sur les marchés parce que tu sais bien, par exemple, qu'aux États-Unis, quand tu écoutes un peu les commentateurs, tout le monde te dit, le SP500 a été tiré par 7 valeurs principales qui sont toutes des valeurs de la tech.
Et le SP500, on va préciser, c'est les entreprises américaines, bon, pas les plus grandes, ça va être la deuxième division.
Ouais, c'est un des indices majeurs, mais plus large, beaucoup plus large.
D'accord.
Donc tu te dis, le business model des banques, il est plus classique. Hein. C'est un business model qui est complètement mature, mais... Quand tu regardes, je prends toujours comme... Alors, autant...
Mais un truc comme ça qui est pépère, mature, tu peux en attendre quelque chose.
Tu prends une action bancaire française. Prenons le cas du Crédit Agricole.
Ouais, j'allais te dire, le Crédit Agricole.
Crédit Agricole, jusqu'à peu, tu faisais quand même, en fonction des dividendes qu'ils avaient payés, du 7% de rendement.
Par an. Ouais, c'est bien.
C'est correct. Pour un risque Crédit Agricole,
qui est quasiment
tu
nul.
Payes pas l'action très très cher en termes de bénéfices futurs.
Ouais.
Tu payes un multiple de je sais plus combien c'était, mais c'est vraiment pas beaucoup.
Ouais.
Et tu peux quand même construire un flux de revenus qui est intéressant.
Ouais, ouais.
D'autant plus que en période d'inflation, qu'est-ce qui se passe ? Les taux longs ont tendance à augmenter.
Ouais.
Ok, donc logiquement pour la banque qui fait de la transformation,
elle peut aussi se faire du revenu. Mais oui.
Et oui, donc c'est pas inintéressant aussi comme protection, si tu veux. Mais tout le monde n'aime pas ça parce que les gens en réalité, pour l'instant, il y a encore ce focus sur la technologie, ce que j'entends complètement. Pas que la technologie, puisqu'on est en train de passer, si tu veux, dans un monde décarboné, etc. Donc toutes les technologies qui dérivent en fait de ces thèmes-là sont intéressantes, mais elles sont chères. Ouais. Elles sont chères. Il y a d'autres options, si
d'accord.
Tu veux. Tu peux y revenir un peu plus tard, mais en attendant, pour te constituer un portefeuille de protection, on va dire, Bah, tu prends les bancaires, tu prends aussi potentiellement tout ce qui tourne autour de l'énergie, hein, mais des trucs très classiques.
L'énergie, hein. Les producteurs, bah, les distributeurs.
Tous ces gens-là.
Oh merde, ça, si tu me dis ça, ça veut dire qu'ils sont pas prêts de baisser les tarifs que je paye. Ça,
c'est, non, mais non, c'est tu vois, là, c'est un bon hedge contre l'inflation, par exemple.
Ouais, d'accord.
Mais tu vois, je veux dire, c'est intéressant de penser, en fait, l'investissement aussi comme une sorte, un outil pour se protéger.
Ouais.
Pour vraiment construire une poche de revenus, hein, qui va surfer un petit peu, ou tout simplement être indexé sur l'inflation.
Mmh.
Maintenant, peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais dans 10-15 ans, ça sera intéressant justement d'avoir pu constituer en fait cette poche supplémentaire, parce que quand on sera à la retraite, alors, elle sera indexée un petit peu aussi, mais probablement pas. Il y a quand même beaucoup de questions là.
Beaucoup de questions. Donc la roue tourne, comme on dit, la vie est un éternel recommencement. Donc ce qui peut paraître comme has-been, l'immobilier,
les banques.
Les
utilities, comme on dit.
Voilà, les choses simples de consommation.
Voilà, exactement.
Toi, tu dis, bon, bah, personne n'en veut, bah, hop, c'est le moment de.
En ce moment, oui, je trouve que c'est intéressant à regarder.
Ok.
Je trouve que c'est intéressant à regarder, au-delà de peut-être potentiellement de la peur d'acheter directement.
Mm-hmm.
Mais non, moi, je trouve que c'est bien, ça vaut le coup de regarder.
Mm. Et alors après, parce que l'inflation, il y a les gouvernements, les banques centrales luttent contre l'inflation.
Essayent.
Mais enfin, ils y arrivent, on peut toujours se dire que ça pourrait être pire.
Ça pourrait être pire. En tout cas, en Europe, ils ont réussi potentiellement pour l'instant à maîtriser un petit peu la chose, puisqu'on a quand même bien baissé là, en termes d'inflation sur les derniers chiffres.
On est à 3%, un peu moins. Ouais.
Et on parle quand même de démarrer un cycle de baisse des taux, je crois que c'est au mois de juin. Donc bon, entre ce qui se dit et ce qui va... Voilà,
on verra à Noël.
Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire que oui, c'est plus ou moins, on va dire, maîtrisé pour l'instant, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on parlait des taux longs.
Ouais.
Le 10 ans américain est passé au-dessus de 4,60.
Ah ouais,
c'est beaucoup.
D'accord. Ouais, ouais.
C'est beaucoup.
Ouais. Les bons du Trésor. Les bons du Trésor américain.
Exactement.
Ouais. Les emprunts d'État américain.
Les Américains, contrairement à nous, ils empruntent beaucoup à taux variable. Là, affaire à suivre, comme on dit.
Ça, j'ai jamais compris. Il faudra m'expliquer un jour l'intérêt des taux variables, parce que ça me paraît fou. Moi. Ça me ferait trop peur à la base. Bon.
Ben oui, parce qu'on ne sait pas.
On sait pas. Mais alors, du coup, pour l'inflation, ça veut dire aussi que ce que tu nous dis là sur l'immobilier et par exemple les banques pour justement se retrouver avec un portefeuille qui nous permet de limiter, voire annuler complètement l'effet de l'inflation, ça veut dire aussi que tu paries. On reviendra pas à la situation d'une inflation à moins 1% ou à 0%. C'est du pari, même s'ils maintiennent le truc, l'inflation en bouffait du 2-3.
Ben, je pense, en fait, si tu veux, que contrairement à il y a quelques années, on est dans une phase un peu de dislocation au niveau géopolitique.
Ouais.
Ça a des conséquences, en fait, sur les chaînes d'approvisionnement.
Ouais.
Tu vois bien qu'on insiste beaucoup en Europe pour essayer de réindustrialiser l'Europe. De sorte qu'on n'ait pas à faire venir des produits de l'autre bout du monde. Mmh. Bon, mais quand tu rentres dans ce genre de dynamique, il y a des questions de coûts, etc. Donc voilà, je pense qu'au lieu d'avoir une inflation qui est un petit peu guidée par la demande, là, c'est plutôt un problème d'offre. Et ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus délicat à traiter parce que tu vas augmenter les taux. Quand tu augmentes les taux, c'est pour ralentir ta demande, puisqu'il y a beaucoup de crédits, etc. etc. Donc,
c'est plus cher.
Après, quand c'est un problème d'offre, j'ai envie de te dire, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, est-ce que l'arme des taux est l'arme idéale pour essayer d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus efficaces, donc moins chères, etc. Je suis pas sûr.
Ouais, non, c'est pas.
Je suis pas sûr du tout.
Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce savoir partager, cette information aujourd'hui autour de l'inflation et comment la combattre avec ses petits bras, chacun dans notre coin.
Mais on a ce pouvoir.
Ah, on a ce pouvoir. Bon, bah, alors utilisons-le. Bonne semaine à toi.
Mais Steve. Merci David.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.